Bienvenidos a este informativo de Radio France.
Look, Paris live with me. Today's headlines.
Accent du monde. Philippe Le Caplain.
Bonsoir et bienvenue dans Accent du Monde, l'actualité vue par les rédactions aux langues étrangères de RFI. Et ce soir, une édition spéciale consacrée au Festival de Cannes. Demain soir, ce sera la cérémonie de clôture avec la remise des récompenses, à commencer par la plus célèbre d'entre elles, la Palme d'Or. Ce soir, c'est avec vous, Xenia Jean-Noclé de la rédaction ukrainienne.
Dobre večer.
Sur place, sur la croisette, donc à Cannes, Olia Horton de la rédaction anglophone.
Good evening, everyone.
Et pour la rédaction en russe, c'est Denis Strelkov.
Dobre večer, Cannes.
Xenia, c'est la troisième fois que la rédaction ukrainienne de RFI couvre le festival et cela correspond aux trois années de guerre dans votre pays.
Tout à fait. On pense toujours à ce cinéma qui continue à exister en Ukraine malgré tout. Des films sont encore tournés, parfois même sous les bombardements. Le cinéma, c'est aussi un terrain de bataille, un combat culturel, un moyen de faire passer des messages. Et c'est dans cet esprit qu'on couvre le festival avec beaucoup d'émotions, parfois de la tristesse, car on regarde souvent des documentaires sur la guerre et des films très fort. Et pour ce qui est de la Russie, même si elle n'a pas de pavillon officiel cette année, on entend beaucoup parler le russe à Cannes. Il y a des films russes. Il y a au moins 30 personnes accréditées venant de la Russie.
Bah justement, Denis Strelkov, vous êtes de la rédaction russe et vous êtes à Cannes. Cette année, vous avez misé sur le podcast consacré au cinéma.
Oui, effectivement. Puis il faut aussi remarquer que quand on entend parler russe à Cannes, il y a même plus de 30 personnes, beaucoup plus selon mes estimations. Une centaine de personnes russes sont présentes à Cannes. Donc pour moi, comme pour mes collègues, il y a deux grands volets de la couverture du festival. D'abord, je garde des films, beaucoup de films. Cette année, j'en suis déjà à 33. Ensuite, il y a des rencontres informelles, des discussions hors micro où j'essaie de comprendre dans quel état se trouve l'industrie du cinéma dans des pays russophones. Car oui, parfois on a l'impression que le marché russe du film est isolé, voire inexistant, et pourtant celui-là existe toujours. Les films qui respectent les règles de la censure russe continuent d'être diffusés, par exemple le film d'ouverture du festival, Partir un jour, ou encore Alpha du Julia Ducournau, ont été déjà achetés et pourraient être projetés en Russie, un lien culturel existentiel entre l'Europe et la Russie qu'on n'est pas prêt d'oublier.
Olia, comment au service anglophone vous avez couvert cette édition du Festival de Cannes?
Alors, puisque nous, notre rédaction n'est pas liée à un seul pays, nous avons une liberté éditoriale pour creuser les sujets et aussi mettre en valeur les métiers de l'industrie du film. On regarde un peu par un angle Afrique, la France, les pays où ça parle anglais, par exemple l'Inde ou Nigeria. Et cette année, j'ai fait un sujet sur la composition de musique pour le cinéma, par exemple, et un autre sur la cinématographie.
Et puis, vous avez une approche, on va dire, hybride de votre travail, c'est ça?
Exactement, il faut jongler. J'écris les articles pour notre site web que j'appelle les cartes postales de Cannes. Je les augmente avec des interviews filmées et publiées sur la chaîne YouTube. Et cette année que j'ai expérimenté avec le format court et vertical qui est plus adapté aux réseaux sociaux. Nous avons récemment ouvert notre chaîne TikTok. Je fais une petite pause pub. Et pour ça, par exemple, j'ai fait une petite vidéo sur une exposition de photos dans la rue de l'acteur français Alain Delon. Et j'ai demandé tout simplement aux passants étrangers, est-ce qu'ils connaissaient Alain Delon? Et les réponses étaient très drôles, parce que même si c'est une très grande star en France, il reste assez méconnu globalement.
Et puis un mot sur une autre vidéo que vous avez réalisée, Olia.
Tout à fait, j'ai fait une soirée découverte de musique organisée par SACEM, la Société des droits d'auteur. J'ai interviewé une jeune franco-vietnamienne qui est DJ, musicienne, et elle compose des fois pour le cinéma, parce que notre public vraiment se trouve partout dans le monde. Il y a des gens qui sont anglophones sans être nés dans un pays anglophone, et il y a un suivi très très fort sur l'application WhatsApp, par exemple, en Afrique, qui aime beaucoup nos vidéos. Il y a un suivi très fort en Amérique du Nord par Facebook, et nous avons un public qui est très fidèle en Inde et au Pakistan pour notre site web et nos podcasts.
Venons-en maintenant aux films qui ont particulièrement retenu votre attention dans Accent du Monde.
20 heures à Paris.
Paris, on juste thermomètre au
standard, c'est rond, puis c'est au ciné.
Accent du Monde. Philippe Le Caplain.
Denis Strelkov, en direct de Cannes. Cette année, un film russophone d'un Ukrainien qui aborde une page souvent méconnue de l'histoire du goulag vous a particulièrement intéressé.
Oui, effectivement, son réalisateur Sergei Loznitsa est avant tout un documentariste. Il est habitué à travailler avec des images d'archives et les limites imposées par le réel. Mais ici, à Cannes, il s'exprime cette fois-ci sans contrainte dans un film de fiction. Il choisit un format 4:3, donc très resserré, presque en rectangle, qui nous plonge dans l'atmosphère oppressante des répressions staliniennes. On découvre le système qui a tué plus d'un million de personnes à travers le regard d'un jeune juriste idéaliste, Alexandre Kornev. Il croit dans ce système, comme certains croient en Dieu. Chargé de s'assurer que les droits des prisonniers sont respectés, il ne doute pas que ceux qui sont condamnés sont à titre juste et titre condamnés. Jusqu'à un jour où il découvre qu'un ancien procureur est détenu par erreur. Il part alors à Moscou afin de l'aider, mais se heurte à l'absurdité bureaucratique et la violence du régime totalitaire.
Et pour ce cinéaste très engagé, ce film parle du passé donc, mais également du présent.
Exactement. L'idée maîtresse de son œuvre, c'est que l'histoire se répète. L'artiste est là pour nous en prévenir. Le lien avec notre époque est évident, même si certains journalistes russophones s'en agacent. Pour eux, il ne faut pas trop faire des caricatures. On est déjà trop parlé de cette époque, tournons la page. Mais ce n'est pas du tout la position de Sergei Loznitsa, à qui je posais la question.
Сейчас мы смотрим этот фильм и удивляемся, насколько наивны наши главные герои.
Il nous explique que ces personnages idéalistes dans le film, qui font confiance aveuglément au système, peuvent nous sembler naïfs voire stupides. Mais si dans 70 ans on regarde notre époque actuelle, nos décisions, nos valeurs ne paraîtront-elles pas tout aussi absurdes?
Et Denis, vous avez également vu un film intitulé La disparition de Joseph Mengele.
Oui, et c'est une œuvre de Kirill Serbonikov, le cinéaste russe très présent à Cannes ces dernières années. C'est déjà ma troisième année sur la croisette et c'est le troisième film de Kirill Serbonikov que j'ai vu. Donc c'est une personnalité. Elle était poursuivie en Russie. Elle était assignée à domicile pour une affaire soi-disant financière, mais en réalité pour des raisons politiques. Les autorités russes l'ont chassée. Il travaille maintenant en Europe et au cinéma comme au théâtre. Il est donc aujourd'hui le véritable symbole de l'artiste exilé. C'est même la France qui l'a reconnu au plus haut niveau. Cette semaine à Cannes, il a reçu la Légion d'honneur pour sa participation à la vie culturelle française.
Il présente donc un film très politique, tourné en allemand, pas un seul mot en russe.
Oui, il retrace la cavale du tristement célèbre médecin nazi d'Auschwitz après la Seconde Guerre mondiale, joué par August Diehl, surnommé l'ange de la mort, Joseph Mengele, recherché par l'Israël pour ses expérimentations médicales sur les Juifs, trouve refuge en Amérique du Sud. Il échappe à la justice pendant près de 30 ans, chargeant d'identité de pays et meurt sans jamais avoir été jugé. Les parallèles avec l'histoire d'aujourd'hui sont flagrants. Pour Kirill Serbonikov, c'est une façon de montrer à travers des images noires et blancs qu'il est impossible d'échapper de son passé très sombre, même si la justice ne peut pas attendre tout le monde. Les souvenirs hantent et les souffrances, eux, sont incessantes.
Et puis autre chose, ce film Imago de Denis Oumar Pitsaev, un documentaire personnel récompensé à la semaine de la critique, et c'est le premier film tchétchène présenté à Cannes. Hein.
Oui, Philippe, officiellement c'est un film franco-belge, mais Imago est un film d'une grande douceur, très intime, très personnel, tourné par un tchétchène. On quitte ici les grands cinéastes engagés, des drames historiques comme on a pu voir. C'est le premier film de Denis Oumar Pitsaev, il en est aussi le personnage principal. Installé en Europe depuis des années, il retourne dans un petit village tchétchène en Géorgie, une enclave où vit encore sa famille. Il y découvre une vie traditionnelle dans laquelle il ne se reconnaît pas. Sa mère lui achète un terrain pour y construire une maison, mais lui ne veut pas de cette villa. Il ne ressent pas ses racines, alors il s'engage dans un dialogue avec ses proches, notamment avec son père, longtemps absent de sa vie. Denis Oumar Pitsaev qui s'est confié à notre micro.
Да, мне кажется, это первый чеченский фильм, как бы первого чеченского режиссера.
Il nous explique que cette région est souvent filmée par des journalistes étrangères, mais toujours de manière un peu stéréotypique. Comme ici, il visitait Anzou. Lui, il veut montrer cette réalité de l'intérieur et pour lui, faire attendre une voix tchétchène à Cannes, c'est un acte très fort.
Denis Strelkov de la rédaction russe de RFI. Xenia Jean-Noclé, l'Ukraine est très présente dans l'actualité, c'est également, ça se ressent hein, encore une fois à Cannes. Le festival a d'ailleurs ouvert avec une journée spéciale Ukraine.
Oui Philippe, une initiative inédite pour exprimer la solidarité au monde du cinéma envers le peuple ukrainien en guerre. En partenariat avec France Télévisions, Brut et la mairie de Cannes, ont été mis en avant trois documentaires très forts projetés au palais du festival. Donc Zelensky, réalisé par Yves Jolon, Lisa Vapné et Ariane. Chemin. Ce film retrace le parcours de Volodymyr Zelensky de la scène comique à son rôle de président en temps de guerre. Le deuxième documentaire, c'est Notre guerre, signé Bernard-Henri Lévy et Marc Roussel, suit les combats dans l'est de l'Ukraine entre février et avril 2025. Et le troisième documentaire, c'est 2000 mètres jusqu'à Avdiivka, du réalisateur ukrainien Mstislav Tchernov, déjà oscarisé pour son film Mariupol. Et c'est un geste fort de la part des organisateurs du festival. cela répond aux besoins de la communauté ukrainienne, mais aussi internationale, de rappeler la gravité de cette guerre. Même si cette année, il y a peu de films ukrainiens dans la sélection officielle, cette journée était un signal clair. La communauté artistique reste attentive et solidaire face aux atrocités du conflit.
Et puis à Cannes, l'Ukraine a son pavillon national, qui est devenu un véritable lieu de résistance culturelle.
Tout à fait, et ce n'est pas juste un stand, c'est un espace vivant avec des discussions sur l'avenir de l'industrie cinématographique ukrainienne, présentation de projets et rencontres avec des professionnels du monde entier. Et puis au pavillon des États-Unis, les cinéastes ukrainiens et internationaux ont réaffirmé leur soutien mutuel. On y a notamment évoqué le nouvel appel à projets du Fonds européen de soutien au cinéma ukrainien piloté par le CNC. Et malheureusement, le festival a débuté sur une note tragique avec l'annonce de la mort d'un acteur ukrainien sur la ligne de front, ce qui a conduit les organisateurs à annuler un événement, un signe de respect. Et un autre moment marquant était la présence de Artem Sitablaev. C'est un réalisateur et acteur tatar originaire de Crimée. Il est en permission en ce moment, il est venu au festival en uniforme militaire.
Et puis pour ce qui est des films, il y avait des œuvres ukrainiennes en compétition cette année.
Oui, alors le premier c'est Miletanthropos, c'est un film collectif réalisé par Elisaveta Smith, Alina Gorlova et Simon Mozgovy. C'est une œuvre bouleversante, très poétique, qui documente la guerre à travers des scènes de la vie quotidienne et des récits personnels. Ce film est composé, on dirait, avec des tableaux, souvent en plan large, où le spectateur est complètement immergé. Mais ce qui le rend unique, c'est son concept. Il s'agit d'un portrait collectif d'une génération qui vit la guerre et malgré tout, la vie continue. On y voit par exemple des fleurs poussées entre les carcasses de missiles vides, des mineurs traverser un champ vert à côté des vaches, des enfants qui transforment des tanks russes détruits en toboggans, ou encore des canards nager dans un lac rempli de blocs de béton provenant d'un pont explosé. Les images sont très fortes. Il y a aussi des hommes à la gare qui disent au revoir à leur famille. Ce sont des scènes presque banales et pourtant déchirantes. On le voit pleurer en silence. C'est très intime, mais c'est une expérience partagée par tout un peuple. Ce film avait aussi une dimension humanitaire et j'ai discuté avec les réalisateurs. Voici ce que Elisaveta Smith nous raconte.
Так, ми знімали в деокупованих селах Херсонщини, які були на лінії фронту. І приїжджаючи туди,
Aidez-nous à comprendre, Génia.
Alors, elle raconte qu'elles ont tourné dans les villages occupés de la région de Kherson et une fois sur place, elles ont rencontré les gens qui avaient besoin, qui ont tout perdu, les maisons brûlées, les maisons détruites. Donc, elles ont décidé avec l'équipe de tournage de reconstruire 3 villages. Et aujourd'hui, elles ont reconstruit 23 maisons. Voilà. Et le deuxième film en compétition, c'est un court-métrage d'animation. C'est un petit travail d'une artiste de Kharkiv qui s'appelle Polina Pidubna, intitulé « Ma grand-mère est parachutiste ». C'est un travail très personnel sur les racines familiales, dans lequel elle explore l'histoire de sa famille, marquée par des déplacements successifs. D'abord de l'Asie centrale, au Tadjikistan, puis en Ukraine, et encore aujourd'hui vers d'autres terres. Et c'est un film très touchant sur l'exil, la mémoire et la transmission.
Et puis il y a aussi des événements parallèles, en dehors de la programmation officielle.
Oui, absolument. L'un des temps forts a été la soirée organisée par le Ukrainian Fashion Film Festival, une initiative qui mêle le cinéma, la musique, la cuisine et la mode. Et sur scène, des artistes comme le Kalush Orchestra, les grands gagnants de l'Eurovision 2022, ont montré que la culture ukrainienne est vivante, moderne et créative, même en temps de guerre. C'est une soirée de charité, avec des ventes aux enchères au profit d'un hôpital mère-enfant à Dnipro.
Et puis il faut également savoir que Cannes accueille des réfugiés.
Tout à fait. Et cette année, j'ai vraiment ressenti la présence grandissante des Ukrainiens. On voit de nouveaux commerces ouverts par les Ukrainiens. On entend de plus en plus parler ukrainien dans les rues. Et lors de cet événement caritatif organisé sur les auteurs de Cannes, il y a eu des représentants de la municipalité. Donc, je vous propose d'écouter Thomas de Pariente, maire adjoint de la ville de Cannes.
La ville de Cannes comptait 73 500 habitants, elle compte 1000 habitants de plus aujourd'hui. Je crois que c'est unique et historique, en tout cas, d'avoir un tel accroissement de population avec une seule nationalité, qui pour la plupart se sont sédentarisés à Cannes, avec des enfants scolarisés, avec des personnes qui travaillent aujourd'hui. Et d'ailleurs, je tiens à dire que les enfants ukrainiens sont les meilleurs dans nos écoles, notamment en matière scientifique. Et vous savez quoi ? Ils élèvent nos classes par le haut, par leur aptitude à savoir, et nous sommes ravis de les avoir. Cannes est une ville de diaspora, et ce, depuis plus d'un siècle. Eh bien, cette dernière diaspora, elle est ukrainienne. Croyez-moi, nous en sommes fiers.
Voilà, Thomas de Parient, maire adjoint de la ville de Cannes. Voilà pour donc l'aspect ukrainien de la chose avec vous, Xenia Jornoclé. Olia Horton sur la croisette pour RFI en ce moment même. Parlez-nous d'un film nigérian qui a particulièrement retenu votre attention.
J'ai beaucoup aimé le film My Father's Shadow, l'ombre de mon père, qui était dans la compétition Un certain regard. C'est la première fois qu'un film porté par le Nigeria est présent à Cannes. Et c'est très réussi comme film. C'est un premier long métrage réalisé par Akinola Davis Jr. Qui met en scène un récit semi-autobiographique écrit en tandem avec son frère qui se déroule sur une seule journée dans la capitale Lagos pendant la crise électorale de 1993.
Et alors, qu'est-ce que raconte ce film précisément ?
Alors, le propos est très simple, mais très puissant à la fois. Il s'agit de l'histoire d'un père qui emmène ses deux jeunes garçons avec lui en ville pour récupérer sa paye dans l'usine où il travaille. Il n'a toujours pas été payé depuis quelques mois. Mais en attendant le retour de son patron, il a du temps. Donc, il emmène ses fils pour visiter la ville. Évidemment, c'est la première fois. Et un point fort dans ce film est le jeu de ces garçons qui jouent les deux frères qui ont à peu près 8 et 11 ans. C'est leur premier rôle sur le grand écran. Ils sont excellents. Ils sont naturels. Ils sont spontanés. Et surtout, quand ils découvrent les yeux grands ouverts, la ville de Lagos, haut en couleur et bruit, avec ses rues bondées, ses marchés et ses stands de cuisine locale. On entend les voix dans la bande-annonce.
You know what? Go and wear your clothes. You are following me to Lagos today.
But Mama said we shouldn't leave the house. That we should wait for her.
Au-delà, que faut-il en dire, Olia?
Alors, cette journée improvisée qui, loin du village, va surprendre les garçons. Ils vont aussi se rapprocher de leur père, qui ne voit pas très souvent à cause de son travail. Et donc, le père a une occasion de dire à ses fils à tel point il tient à eux et que la famille est la chose la plus importante dans la vie. C'est vraiment le message du film. Il y a beaucoup d'émotions et de tendresse sans que ça devienne lourd. Tout au long, par contre, on sent la tension nerveuse, la volatilité de la situation politique en fond. Mais on voit les soldats qui patrouillent la ville, mais on voit très peu d'action. On voit à travers les écrans de télévision, c'est plutôt une ambiance tendue qui s'installe avec un design sonore et un usage de musique qui met en valeur l'histoire et qui résonne très, très longtemps après la fin du film.
Autre coup de cœur, il s'agit d'un film thaïlandais.
Tout à fait, j'ai apprécié A Useful Ghost, un fantôme utile, Pee Chai Daika en thaïlandais, qui était en compétition dans la semaine de la critique. Il a même gagné le grand prix qui était annoncé mercredi soir. Et c'est le premier long métrage, encore une fois, d'un jeune réalisateur thaïlandais, Ratchapum Boonbachachok. C'est la première fois en 10 ans que le Thaïlande est présent à Cannes. Et il utilise un humour souvent très décalé, un peu noir, en appuyant sur les histoires de fantômes pour évoquer les problèmes de l'environnement, la société et des tensions politiques.
Alors, il s'agit de l'histoire d'un jeune homme qui perd sa femme à cause de la pollution à la poussière.
Exactement, c'est la première histoire, parce qu'il y en a plusieurs couches d'histoire, mais pendant son deuil, un jeune homme découvre que l'esprit de sa femme s'est réincarné dans un aspirateur. Oui, vous avez bien entendu, un aspirateur. Bien qu'absurde, leur relation renaît plus fort que jamais, mais cette relation est considérée comme bizarre, pas naturelle, et pas appréciée par la famille. Il s'avère que pour rester parmi les vivants, le fantôme doit accomplir un travail et devenir utile, une sorte de ghostbuster qui chasse les âmes qui hantent les lieux. Et le réalisateur m'a expliqué que les fantômes font partie intégrale de la culture thaïlandaise.
God is somehow quite common in Thailand, but like it also depends on the region where you're from. Like in the city might not be that significant,
Olia. But on vous a perdu, Olia?
Non.
Allez-y.
Oh, pardon, excusez-moi. Je rêve, je suis dans mon rêve de fantôme. Il dit que les fantômes sont assez courants en ville et les gens sont très croyants. Mais il explique que culturellement, la connexion entre les vivants et les morts est plus fluide en Thaïlande. C'est pas comme l'image occidentale où ils font que peur. Et la femme fantôme dans ce film veut juste aider son mari à s'habituer à la vie sans elle. Et dans un deuxième temps, il explique que l'aspirateur est très important parce que ça représente la poussière qui est présente à Bangkok tout le temps et c'est à la fois un vrai problème environnemental qui impacte la santé, mais c'est aussi un autre sens.
Merci Olia Horton donc pour cette sélection qui est la vôtre. Juste après la cérémonie de clôture et la remise de la Palme d'Or demain soir, donc RFI sera en édition spéciale pour vous proposer les premiers commentaires et critiques de ce palmarès. Ce sera de 20h à 20h30.